Oui, bonjour Marc de Saint-Maurice-de-Moron. On a beaucoup entendu ces derniers temps travailler plus pour gagner plus. Et puis qu'est-ce qu'on entend ce matin ? Les policiers défilent dans les rues parce qu'ils n'ont pas touché leurs heures supplémentaires. C'était qui déjà le ministre de l'Intérieur avant ? Allez, ciao.
Ouais, bah salut Daniel. Et ben voilà, je t'appelle parce que le 19 juin, c'est les 55 ans d'un mec qui s'appelle Michel, qui a toujours fait la route. Ouah, qui a fait la route, c'est pas un routier pur et dur, quoi, mais c'est un mec qui a toujours roulé sa bosse. Et puis en 89, il m'a appris le métier. J'étais jeune apprenti, j'avais 15 ans. Et je commençais à t'écouter tous les jours et ça m'a un peu donné d'autres idées. Lui, te connaissait depuis tout le temps. Ouah, il t'écoute, il est pas politisé. Il aimait bien t'écouter, il avait pas mal de... Bah, il t'écoutait tout le temps. Puis bon, après le travail la nuit, t'écoutais moins, mais bon, Daniel Mermet, ça restait quelqu'un de... Bah voilà, c'était Daniel, quoi. Bah, ce mec-là, c'est Michel, il a 55 ans, il va partir à la retraite, et je vais lui dire « Salut l'artiste ». Et ce mec-là, bah, c'est mon oncle, et je l'aime, et puis voilà, quoi. Bah, je sais pas si tu... message, tu le passeras ou pas, d'ailleurs, c'est pas vraiment important, parce que je sais que j'aurais laissé au moins un message, bah, j'en laisse de temps en temps, quoi. Je sais bien que tu les passes pas tout, je pense pas être plus original qu'un autre, mais tout simplement pour dire ça, quoi. Voilà, je t'aime mon oncle et bon courage dans ta nouvelle vie et ciao mon mimi. Bye bye, c'était Bastien du boulot. Ciao.
Salut Daniel, salut les AMG et même ceux qui ne le sont pas. C'est Patrick des Yvelines. Je ne résiste pas à l'idée de vous communiquer ce qu'a dit la candidate UMP Sylvie Novakovic, qui a devancé d'à peine un demi-point Dominique Strauss-Kahn dans la 8e circonscription du Val d'Oise. Avocate spécialiste des erreurs judiciaires, elle est membre du jury littéraire du prix Monte-Cristo. Lors d'un récent délibéré, elle a surpris les autres jurés, parmi lesquels PPDA, Benoît Duquesne, Nicolas Poincaré, en évoquant son adversaire socialiste. « Il paraît que c'est un grand séducteur », s'est-elle exclamée. Un temps, puis elle a lâché. « Moi, mon mari peut dormir tranquille. Dans ma circonscription, il n'y a que des Noirs et des Arabes. L'idée de coucher avec l'un d'entre eux me répugne. Et d'être élu par les mêmes, ça la gêne ?» commente le canard enchaîné. Et moi, je commente. Dommage qu'il n'y ait pas le même répondeur sur TF1. Allez, salut et bonne continuation.
Montauban, Tarn et Garonne, 55 000 habitants. Montauban, ville du sud-ouest où il fait bon vivre. Montauban, ville d'art et d'histoire. Sa place nationale, son musée Ingres, son festival à l'Orchante. Et bientôt, son deuxième golf. Et oui, la députée maire UMP Brigitte Barège a décidé d'offrir à Montauban un golf de 18 trous. Il en existe déjà un, mais qu'importe. Qu'importe si la ville manque de maisons de retraite, si des collections archéologiques de renommée internationale restent dans des cartons, faute de locaux. Qu'importe si la ville ou le département se désindustrialisent. Il lui faut un golf. Elle l'a décidé, ne discutons pas. Les expropriations viennent de commencer à des prix dérisoires, car le golf s'entourera de lotissements qui, s'ils ne répondent pas forcément aux attentes des Montalbanais, permettent de juteux profits aux promoteurs. Mais ne soyons pas mesquins, ne parlons surtout pas des conséquences sur l'environnement. L'étude hydrogéologique désastreuse a été enterrée. Le golfe entraînera la destruction d'un bois classé, mais déclassé pour la circonstance, et des besoins en eau supplémentaires équivalents à la consommation d'une ville de 12 000 habitants, alors que l'eau est rationnée presque tous les étés. Ah, j'oubliais, ce modeste projet coûtera un peu d'argent au Montalbanais, mais Madame Barège est prévoyante. Elle a commencé à vendre quelques beaux bâtiments publics. Tant pis pour les associations locales qui les habitaient. C'était Janine de Montauban.
Ouais, bonjour Daniel, c'est Pierre de Belgique. Alors juste pour rappeler, leur père de ce soir jeudi a tourné donc en Belgique, près de Lille, mais de l'autre côté de la barrière. Comme chaque deuxième jeudi du mois, c'est à partir de 19h au café Les Amis Réunis à Tournai, Belgique donc. Voilà, merci, bonne journée à tous.
La raison du plus fort est toujours la meilleure. J'ai éprouvé cela quand, jeune juive de 18 ans, je me suis retrouvée dans une pièce avec trois hommes de la Gestapo après l'arrestation de mon père qui n'est pas revenu d'Auschwitz. Certes, j'avais peur, mais je ne me sentais pas humiliée. Après quelques heures, ils sont partis. Quand on veut obtenir la régularisation d'une ou d'un sans-papier, on peut, là, éprouver l'humiliation de se heurter au mur du règlement. Que dire quand l'être humain n'est plus qu'un dossier ? À 83 ans, je me sens désespérée. Je prie Dieu, auquel je ne crois pas, de faire en sorte que les dossiers redeviennent des êtres humains. Merci.
Oui, salut aux Mazo qui écoutent cette émission et ensuite décrochent leur téléphone pour lâcher leur fiel. Vous faites penser à ces voyeurs qui d'abord se rincent l'œil et ensuite appellent la police. Continue Daniel, fais leur mal, ils aiment ça. Ciao à tous.
Je tiens à m'accuser de toute une série de crimes. J'ai été plusieurs fois dans les quartiers sensibles. Grâce à l'aide d'autres opposants, j'ai défendu des sans-abri, des immigrés, pollué des cultures transgéniques, attaqué des usines d'armement. Je suis une victime de l'influence de la pensée unique. J'ai tort à tous les niveaux. C'est mieux que l'on m'ait arrêté. J'étais mentalement dérangé. Aujourd'hui, on m'a guéri. Et je n'ai qu'une requête. Je veux qu'on accepte mon amour pour notre président. Je souhaite que l'on me fusille pendant que mon esprit est encore.
Eh bien oui, merci pour ce dernier message qui nous éclaire sur ce que nous devons faire, nous dénoncer. Amis auditeurs, dénoncez-vous, faites votre autocritique. Par exemple, il y en a peut-être certains parmi vous qui ont été contaminés par l'esprit de mai 68. C'est un exemple parmi d'autres. Eh bien, rapidement, dans les semaines, dans les jours qui viennent, il en reste peu d'ici la fin juin, mais profitez-en, profitez de cette antenne pour vous dénoncer et faire, comme vient de le faire cet auditeur courageusement, votre autocritique. Sinon, aujourd'hui, eh bien, on va essayer de faire la différence qu'il peut y avoir entre un voleur de poule et un voleur de foule. C'est cette distinction qu'essaye d'opérer depuis des années et des années un certain Denis Robert. Un certain Denis Robert dont vous connaissez le nom, que vous connaissez aussi pour ses livres, ses romans, et aussi pour sa longue quête, son long combat contre l'opacité des places financières et plus généralement sur le principe de la domination et de l'opacité des pouvoirs, du pouvoir. On va passer cette heure avec lui au moment où il risque de disparaître, ce garçon. Il risque de disparaître sous le poids des exploits d'huissier et des recours en justice de toutes sortes, des accusations, des procédures dont il fait l'objet, mais en masse de papiers qui lui parviennent, il risque de disparaître. Ce serait quand même dommage. Alors juste avant, on s'est porté avec François Ruffin à son secours. Voleur de poule, voleur de foule, quelle différence. C'est notre thème d'aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, à propos de l'émission de lundi dernier, je me permets d'apporter une petite rectification aux propos très intéressants de Marc Ferraud, qui s'entretenait avec le groupe La Rumeur. Il disait qu'il n'y avait pas eu de mariage mixte durant la période de colonisation de l'Algérie. Il se trouve que mes frères, ma sœur et moi, sommes issus d'un mariage mixte qui a bien eu lieu avant la guerre d'Algérie, entre une Alsacienne et un Algérien, qui, lui-même de père turc et de mère algérienne. Et ça m'étonnait un petit peu d'entendre ça. Et je voulais dire autre chose, c'est qu'à propos d'identité nationale, je pense qu'il est bon de connaître l'histoire pour savoir qu'une identité ne se résume pas à un territoire qui serait autorisé pour certains et pas pour d'autres. Au revoir.
C'est une annonce de l'association du cinéma Le Petit Casino dans le Loir-et-Cher. On les appelait les LIP. Ils ont porté le mouvement social le plus célèbre et le plus inventif des années 70. Un documentaire retrace leur aventure. Les LIP, l'imagination au pouvoir de Christian Rouault, est un véritable antidote à la morosité politique et au défaitisme. C'est pourquoi nous espérons que vous serez nombreux à faire le déplacement pour une séance suivie d'une rencontre avec le réalisateur. Ça se passe ce samedi à 21h. C'est au cinéma Le Petit Casino à Saint-Aignan-sur-Cher. Saint-Aignan, ça se situe entre Montrichard et Romorantin. C'est à 40 km de Blois et à peu près 50 km de Tours. Alors surtout, n'hésitez pas. À samedi.
On arrête les gangsters, on tire sur les auteurs de hold-up, on guillotine les assassins, on fusille les despotes, ou prétendus tels, Mais qui mettra en prison les empoisonneurs publics, instillant chaque jour les produits que la chimie de synthèse livre à leur profit et à leurs imprudences? C'est une citation de Roger Heim, président de l'Académie des sciences en 1963, et elle sert d'exergue à l'excellent livre de Fabrice Nicolino et François Veyrette sur les pesticides, révélation sur un scandale français. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ces problèmes, je conseille vivement le livre et le site d'ailleurs de son mouvement, le MDRGF, Mouvement pour les droits et le respect des générations futures. Et sur internet, c'est www.mdrgf.org. Merci à Daniel et à toute l'équipe de la base si j'y suis. Et à bientôt. Salut.
Quand une société ou un secteur entier passe sous le contrôle des financiers, il est mort. Parce qu'ils vont faire de la finance. C'est-à-dire qu'ils vont plus...
Ça, je comprends.
Eh ben, ils vont fermer une usine, même si elle est rentable. Ils vont fermer une usine parce que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter des titres que d'acheter des machines.
Il y a 15 ans, Clearstream, tu connaissais ?
Ah non, j'avais aucune idée de tout ça. Moi, j'ai écrit un slam, ça s'appelle « Voleurs de foule ». La justice, elle fonctionne pour gauler les voleurs de poule, jamais les voleurs de foule. Et ici, on est dans des boîtes qui... C'est des voleurs de foule.
Leur vraie peur n'est pas que le système s'arrête. Ils sont convaincus que le système va monter au ciel. Que l'écrasement des uns par les autres va continuer de façon illimitée et exponentielle. Bon, folie ou pas humaine ou pas folie humaine, mais leur problème, c'est de le faire secrètement. Dès lors que c'est public, ils peuvent plus. Le jour où les gens font la relation directe entre leur situation précaire et la finance internationale, ce jour-là, la finance internationale ne fait plus le poids, n'est plus crédible.
Le combat des juges contre le crime financier, c'est un peu la course du mammouth contre le léopard. Quand le mammouth judiciaire trouve la cache d'un léopard prédateur financier, le léopard a déjà changé 3 fois de planque et le mammouth, il n'y arrivera jamais.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec François Ruffin et Denis Robert, voleur de poule, voleur de foule.
Flight number 2, arriving from New York.
Les avis d'huissier, ils sont... J'en ai une partie là, et l'autre partie, les plus récents, sont dans le tiroir. Là. Cour d'appel de Paris... Cour supérieure de justice du Luxembourg, TGI de Paris. Ça, c'est le truc de la cour de casse qui est tombé. Ça, c'est une facture d'huissier. Ça, c'est le truc du mois écoulé, on va dire, de 2 mois, peut-être.
Un tiroir, c'est 2 mois de procédure.
Bah, celui-là, ouais. Là, ces 2 derniers mois, c'est tombé assez régulièrement, quoi.
Et ça, c'est quoi, ça, alors?
Ça, c'est un tableau de... Je m'assois parce que j'ai mal au...
Vas-y.
Ça, c'est un tableau de Philippe Pasquier, mon copain. Enfin, moi, j'étais obsédé par l'idée de comment rendre compte de cette censure. Et donc, l'idée, c'était de faire un bureau. L'idéal eût été de prendre ce bureau-là, qui est mon bureau, de mettre dessus le fruit de ces 5 années d'enquête, avec tous mes documents, avec un ordinateur, et derrière ce bureau, d'édifier un mur qui fasse 6 mètres de haut, au moins. Je tapissais le mur d'avis d'huissier, de lettres commandées, de tout ce que j'ai eu depuis 4-5 ans. Et j'ai de quoi en faire, sur 1,50 m, de le monter à 6 mètres, tellement il y en a. Pour montrer l'écrasement et la difficulté quand tu travailles sur ces sujets-là, comment on essaie de te faire taire et de te faire plier, la pression des procès. Par exemple, les Russes de l'Amenhotep, quand ils m'ont attaqué, comme ils m'ont attaqué dans 7 pays, et que j'ai 2 films et 2 livres, il y a 28 procédures. Donc, 28 fois, tous les 3 mois, pendant 5 ans, j'ai eu des avis d'huissier de l'Amenhotep. À côté de ça, bon, il y a Clearstream, il y a tous les procès que me fait Clearstream en France, en Belgique, au Luxembourg. Il y a toutes les plaintes en diffamation qui ont été déposées contre moi. Et puis, il y a tous les procès que m'ont fait Fortis et la Banque Générale de Luxembourg. Et puis, il y a l'État luxembourgeois qui est le... Finalement, si tu prends tous les adversaires que j'ai, aujourd'hui, avec Peerstream, c'est l'État luxembourgeois qui est le plus vindicatif à mon égard, et le plus violent et le plus agressif.
Et le mur, ce mur de 6 mètres de haut, ce mur qu'on ne peut pas franchir, couvert d'avis d'huissier et de procédures et tout ça, c'est aussi le mur contre lequel tu te heurtes, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est pour montrer aux gens, parce que c'est pas le coup de le dire. Quand tu vois les lettres, quand tu vois la quantité de choses et tout, tu te rends compte de ce que c'est qu'être journaliste aujourd'hui dans ce pays, quoi.
Qu'est-ce que vous ne devez pas comprendre aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous allons vous dire pour vous distraire, pour vous détourner de l'essentiel, pour vous éloigner des manettes de votre propre destinée ? Qu'est-ce que nous avons encore trouvé pour appliquer notre politique ? La politique au sens où l'entendait Paul Valéry. La politique, disait-il, est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de leurs propres affaires. Eh ouais, c'est ça notre boulot. Bien sûr, vous ne trouverez personne pour vous dire ce que je vous dis là, aucun journaliste en tout cas. Et pourquoi ? Bah parce que les journalistes sont de braves gens, ils font du mieux qu'ils peuvent, ils s'appliquent, faut pas leur en vouloir. Et puis la plupart du temps, ils n'en savent rien. Et ils vous parlent de choses qu'ils ont lues. Ne croyez pas qu'il y a un complot, une grande usine quelque part, sous la terre, où l'on fabriquerait de la désinformation. L'usine a des informés, peuplés par les bourreurs de mou, bien sûr que non, pas besoin. Ça, c'était bon au temps de Staline ou au temps de notre ministère de l'information, par exemple. Non, non. Aujourd'hui, plus la peine, tout ça est parfaitement intériorisé, le dressage est réussi et on pense ce qu'il faut penser, on dit ce qu'il faut dire, on fait ce qu'il faut faire, comme tout le monde. On pense, on dit, on fait comme tout le monde. Et... Mais penser quoi d'autre, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait penser d'autre? Ben voilà un gars qui pense autrement. Denis Robert est une exception dans cette profession. Il y en a d'autres quand même. Il faudrait qu'on en parle d'ailleurs un jour des exceptions dans cette profession. Il a fait un pas de côté il y a déjà pas mal de temps. Et lui tout seul, ou presque, il a essayé de s'attaquer à l'essentiel. Il a essayé d'aller au cœur même. Du système actuel, c'est-à-dire un mot pour ce qui le concerne, Clearstream. Qu'est-ce que c'est que Clearstream ? Ben, on va essayer de comprendre au cours de cette heure, à travers le combat de cet homme quasiment seul, derrière ces piles d'exploits d'huissiers et de commandements de toutes sortes et de convocations de toutes sortes, cet homme qui se bat et qui a fini par émouvoir un petit peu quand même, et à travers ses bouquins, à travers son action, à travers ses interventions, et si bien qu'il a aujourd'hui un comité de soutien que vous pouvez rejoindre. Il y a une pétition de soutien à Denis Robert. Il fait face quand même à des dépenses que vous pouvez imaginer. C'est pas la seule raison de cette heure que nous passons ensemble. L'important pour nous, c'est d'ici à 16h, de parvenir à faire la différence entre les voleurs de poules et les voleurs de foule.
On a beaucoup chanté les courageux, les prêts à tout qui marchent le front haut vers les dangers sans trembler d'un cheveu, fiers ces gaillards à l'ombre d'un drapeau. On n'a jamais chanté tous les peureux, les toujours prêts à se faire la valise. Alors chantons, ne soyons plus honteux, les tailleurs de route qui se font la cerise. Debout, compagnons de la foudre, faisons parler la poudre. Non, poudre à nous, pas la poudre qui pète, la plus jolie, la poudre des scampettes. Dans l'héroïsme l'avenir est bouché et de la gloire, refusons les délices, brave par hasard, jamais par intérêt. Peu de héros ont fait des bénéfices, unissons-nous tous les lâches mes frères et crions fort notre droit d'exister. Sommes des moitiés mi-révolutionnaires, car nous faisons rarement un tour complet de vous, compagnons de la foudre. Faisons parler la poudre, notre poudre à nous, pas la poudre qui pète, la plus jolie, la poudre des scampettes.
Clearstream, c'est un peu la banque des banques. Elle permet aux professionnels du secteur financier non seulement de s'échanger des valeurs, mais aussi de garantir des prêts et des emprunts. En principe, ces professionnels, ces clients, ce sont des banquiers. Clearstream a été créé par eux et pour eux dans les années 70. À son conseil d'administration siégeaient en 2001 les plus grandes banques de la planète. Clearstream est un outil indispensable, une caisse enregistreuse et une pompe à finances. Ceux qui l'utilisent et qui la dirigent, ce sont les banquiers. Ces mêmes banquiers, on les retrouve actionnaires ou créanciers des multinationales.
C'est ça la cuvée de Denis Robert.
Alors il y a des cartons posés.
Blanc, rouge et rosé.
Vous pouvez en sortir une bouteille ?
Ouais, sûr. Avec une étiquette collector de pétillon pour le rosé, que voilà, cuvée Denis. Dites, monsieur le conseil général, je sors la TVA sur votre fausse facture.
Voilà comment ça se passe. Alors on avait commencé une émission sérieuse, avec des grands principes et des grands sentiments, et puis c'est déjà le pot de vin. Le pot de vin, le gars qui parle là, c'est Rémi Malingret, qui est un dessinateur, donc vous connaissez peut-être pas sa signature, mais en tout cas ses dessins, et qui s'occupe du comité de défense de Denis Robert. Là, il y a en l'occurrence un dessin de Pétillon, dont vous admirer les dessins dans le Canard Enchaîné chaque semaine, etc. Il faut le soutenir, le Denis Robert, parce que il est quand même il y a des choses très graves dans le monde, peut-être encore plus graves que ça, c'est bien possible, mais enfin celle-là nous préoccupe aujourd'hui.
Donc là vous avez même fait du vin pour Denis Robert alors.
Ben, c'est-à-dire qu'on essaye de diversifier les procédés pour gagner de l'argent. On joue un petit peu à Madame la Marchande, quoi, tu vois. On essaie de ramasser de l'argent d'abord par don spontané, si possible. On a donc une boîte postale où les gens peuvent nous envoyer spontanément, tu vois, l'épaisseur du dossier, quoi. Ça, c'est toutes les lettres que les gens nous envoient. Ce qui lui arrive, la façon dont il est intimidé, isolé, inquiété, ne le concerne plus lui tout seul. Quand t'entends un pote qui te dit depuis plusieurs années, tiens, ce matin encore deux huissiers, la semaine dernière il y en avait eu cinq, etc. Tu te dis, ah ouais, bah dis donc, oh la vache. Et à un moment donné, tu te dis, bon, ça va, c'est plus possible, on peut plus le laisser tout seul. Et l'idée, c'est de ramasser du pognon, de l'argent pour l'aider à subvenir à tous les frais qu'engendre ce genre de soucis, tu vois, les huissiers, les tribunaux. C'est pas qu'ils perdent ses procès, ils les gagnent, c'est l'euro symbolique, enfin bref, on en est là. Mais évidemment, se défendre, payer un avocat, etc., ça coûte vachement d'argent, quoi.
Et donc, là vous avez récolté combien par ce billet-là ?
Écoute, difficile à dire, parce que je compte sur mes petits doigts, et on a dû ramasser quelque chose comme 40 000...
Et c'est déjà revenu à combien, alors, tout ça ? Tous ces frais judiciaires ?
Pour l'instant, nous, en tant que comité, ça fait 6 mois seulement qu'on existe, hein, depuis la fin de l'année dernière. Nous, on a déjà dû dépenser 25, 30 000 euros, à peu près.
Donc ça fait à peu près 50 000 euros à l'année, alors ? Qu'il faut débourser pour la défense de Denis Robert.
Pour l'instant, on en est là.
Là, c'est la finance internationale. Ça aurait été n'importe qui d'autre en face, vous auriez fait la même chose. Ou le fait que ça soit la banque des banques, le cœur de la finance en face, ça a donné davantage de sens à la bataille.
Que ce soit la finance en face, le fait est que ça n'est pas une surprise, parce que le pouvoir aujourd'hui, il est aux mains des banques et des financiers. Donc quand on touche à un endroit sensible, ce qui est le cas, on parle de la finance et de la haute finance, ô combien, effectivement, on est d'autant plus inquiétés. Personne n'a envie, enfin, les personnes qui ont le pouvoir n'ont pas envie qu'on mette les pieds dans leurs petites affaires.
Donc après les bouteilles de vin de Denis Robert, il va y avoir les casquettes de Denis Robert, les pièces de Denis Robert ou...
Non, on va essayer d'éviter...
C'est le Roberton, quoi.
On va essayer de faire au plus simple et qui nous demande le moins possible de jouer à Madame la Marchande, encore une fois, quoi.
Et il est bon, le pinard, Denis Robert ?
Attends, excellent. Ça, on sent bien qu'un mec, il n'a pas goûté, pour dire ça. Non, mais...
Tu me les montres, là, les listings de Clearstream, donc ils sont sur ton ordinateur ?
Alors, dans mon désordre organisé, est-ce que je vais les retrouver ? Oui. Classeur XL qui va s'ouvrir, ça prend un peu de temps parce qu'ils sont lourds. Et là, tu vas trouver plein de trucs dans les paradis fiscaux. Tu vois, là, il y a un compte à Nassau, aux Bahamas. C'est quoi ce truc ? Pictet International Limited.
Les îles Caïmans, là. Georgetown.
Ouais.
Nassau. Les Bermudes en dessous. Hamilton aux Bermudes.
Ouais.
Tu fais du tourisme, toi, avec les listings. Voilà, tu vas vachement, visites vachement d'îles ensoleillées. De ta Lorraine, du Luxembourg, tu visites toutes les îles ensoleillées du Pacifique.
Tiens, Georgetown, ouais.
Les îles Caïmans.
Et regarde les noms. Tu vois, Flendeling, Nominees. Nominees, c'est nom, mais ça veut dire Nominees, ça veut dire que c'est un prête-nom, ça. Enfin, il y en a 33 000 comme ça, hein, donc... des fois, les soirs, quand je me fais chier, je regardais ça, je trouvais... Il y a presque une poésie. Regardez tout ça, tu te dis, tiens, c'est bizarre. C'est quoi cette société à Nassau ? C'est pas en allant à Nassau que tu auras les renseignements. C'est chez Clearstream que tu les as. C'est dans leurs ordinateurs. Mais eux sont protégés par l'État luxembourgeois. Qui vient me faire chier, moi, quoi. Je peux fermer.
Il y a le chien de garde, c'est ça ?
Hein ?
Il y a le chien de garde, pour les huissiers des boules.
Mais le chien, elle s'appelle Lily. Elle est très... elle aime pas les huissiers. La dernière fois, d'ailleurs, j'ai une fille de 13 ans. Elle était à la maison et le type lui a dit « Ouvre la porte, sinon ton père peut aller en prison. » Ils utilisent des méthodes comme ça, des fois. Parce qu'il fallait qu'ils remettent un acte et ça les fait chier de revenir. Et... J'y vais, hein. Dès que je rentre, je t'appelle. Près de l'église.
Alors, pression, intimidation, un minuscule moustique, un minuscule David face à cet énorme Goliath, Denis Robert. Mais quand même, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il se penche sur Clearstream, qu'il prononce ce mot aussitôt, une avalanche de pression, de manœuvres d'intimidation, de poursuites et de procès. Mais il se pourrait bien que, au-delà d'enquêtes, d'analyses, de dénonciations, de dévoilements, après tout, il n'est pas le seul. Au cours de ces années dernières, il y a quand même pas mal de choses qui ont été découvertes. Et puis, bon, l'autruche capitaliste, vous le savez, est capable de tout bouffer. Mais là, dans ce cas-là, il y a quelque chose visiblement qui passe de travers. Et ce qui passe de travers pourrait bien être que Denis Robert ait découvert, mis à jour, que la mondialisation financière est régulable. On présente les choses depuis longtemps comme quelque chose d'absolument incontrôlable, on ne peut plus rien faire, c'est plus fort que nous, il faut s'adapter, il faut se soumettre à cet ordre. Et il se pourrait bien que ce soit cela qu'il ait mis à jour et qui gêne tant cette hyperpuissance occulte ou qui cherche à ne pas faire parler d'elle, à ne pas se montrer au grand jour. Le point de vue de Dominique Plion, qui est économiste et président du Conseil scientifique d'attaque.
Dominique Plion, vous êtes professeur d'économie, vous êtes économiste. Vous êtes par ailleurs président du Conseil scientifique d'attaque. Est-ce que pour un économiste, il y a eu, à travers les livres de Denis Robert, est-ce qu'il y a eu des points du fonctionnement de l'économie contemporaine qui ont été plus clairement mis en lumière ?
Oui, ben, ce qu'a fait Denis Robert en particulier, c'est de montrer avec force et avec détail que Clearstream, c'est-à-dire une chambre de compensation internationale située au Luxembourg, qui est une société privée, avait un rôle extrêmement important et stratégique
pour le fonctionnement des paradis fiscaux. Clearstream, c'est un écran, c'est un moyen de mettre de l'opacité pour pouvoir faire en toute tranquillité n'importe quelle opération, donc pouvoir détourner de l'argent, pouvoir faire de la fraude fiscale, pouvoir faire du blanchiment d'argent. Et évidemment, les gouvernements luxembourgeois, britanniques et les opérateurs privés sont opposés et donc sont furieux d'enquêtes comme celle de Denis Roubert, parce que ça montre au grand jour où est le problème.
L'une des surprises avec Clearstream, au-delà des dysfonctionnements, au-delà des scandales, c'est de découvrir que finalement cette finance internationale qui était représentée comme d'abord immatérielle, ne laissant pas de traces, n'ayant pas de mémoire, étant décentralisée, en fait pouvait s'avérer extrêmement centralisée, avec des traces, avec une mémoire, et donc contrôlable.
Exactement. C'est le système financier bancaire international est extrêmement centralisé. Aujourd'hui, une chambre de compensation est un endroit névralgique, une espèce d'aiguillage, en quelque sorte, vers lequel transite une grande partie des flux financiers. Vous avez, je le disais, pour les marchés d'échange, qui est le plus grand des marchés, hein, c'est les marchés où les monnaies s'échangent les unes contre les autres. Il y a à peu près 10 banques, qui sont toutes anglo-saxonnes d'ailleurs, qui contrôlent 90% du marché. Et donc, il y a non pas une décentralisation, mais en fait une concentration des opérations financières entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a la volonté politique, on sait très bien où aller pour détecter les flux, pour les repérer et pour les réglementer, voire pour les interdire.
Non, non, on est sur l'autoroute, là, il y a plein de monde. T'as pas le siège auto, mais... Ouais, mais bon. J'ai oublié de le laisser à la maison. Là, j'ai un micro sous le nez, donc tout ce que je dis, c'est enregistré, je te signale. Ouais, bisous, à tout à l'heure.
Donc les héros ont aussi des problèmes de siège bébé.
C'est ça.
Là, on roule en Jaguar. entre Metz et le Luxembourg. Ouais.
Non mais la Jaguar, c'est un plan avec un copain, c'est une Jaguar d'occasion, mais que mon voisin Jean-Marie a retapé. Mais c'est assez classe d'avoir une Jaguar et un comité de soutien.
Là, c'est une route que tu prends souvent pour aller au tribunal du Luxembourg
ou... Quand je vais au tribunal, ça doit être la cinquième ou sixième fois que je vais aller à Luxembourg. J'étais entendu par une juge d'instruction déjà deux fois, j'étais convoqué une fois, donc... Mais c'est une route que j'ai prise souvent quand je faisais mon livre ou quand je faisais mon enquête, quoi.
Tenez la gauche.
Mais là, on va à la cour d'appel, donc je suis jamais allé à la cour d'appel. On va innover. Et au Luxembourg, c'est le pays du guet-apens. Parce que quand tu vois les procédures qu'ils ont montées contre moi, c'est à se taper la tête par terre, quoi. Et ça, c'est une procédure au Luxembourg, j'en ai cinq ou six autres.
Moi, quand j'ai un procès, et ça m'arrive encore, quand j'ai un procès, ma mère, elle me fait me raser, elle me fait mettre une chemise blanche. Toi, là, t'es pas rasé, t'as une veste de jean noire. Ça va pas, ça?
Non, mais moi, je vais pas...
Ma mère, elle serait pas contente. Hein.
Ma mère non plus, d'ailleurs. J'irai jamais me déguiser pour me faire bien boire devant un tribunal.
Il y a une fatwa sur le peigne, aussi, ou pas?
Pourquoi, là, ça...
Oui, peut-être.
Mais je perds mes cheveux, j'en ai plus beaucoup. Enfin, non, je les perds plus, là, mais je... J'ai jamais eu, ne serait-ce qu'une seconde, l'idée que j'allais les abattre ou que Clearstream allait fermer ses portes, quoi. Ils ont fait 18 milliards 7 d'euros de bénéfices l'année dernière, en augmentation de 14%. Ils ont des filiales dans plus de 100 pays, dans 130 pays du monde. Ils viennent d'ouvrir des bureaux au Japon, en Arabie Saoudite. Ils sont richissimes. Ils viennent de prendre tout l'argent des Russes. Tout le fric des Russes sont rentrés dans Clearstream. Donc, je veux dire, qu'est-ce que tu veux par rapport à ça? Ils ont une communication, c'est comme un rouleau compresseur. Et ça, ça coûte des ronds, quoi. L'avocate, c'est 5000 euros.
T'as calculé combien ça te revenait depuis le début de toute cette histoire?
On doit être à, je sais pas, je vais dire 200 000 euros. Mais moi, personnellement, j'en ai pas dépensé. Mais en même temps, aujourd'hui,
C'est ça la vraie censure, c'est une censure économique. Moi j'hésite, l'autre jour, quelqu'un m'appelle, faire une interview là-dessus. Je dis, puis en moi je me dis, putain, si je commence à dire, alors que si je dis que Clearstream c'est un poumon de la finance parallèle, je peux le prouver, j'ai les listings avec les comptes ouverts dans les paradis fiscaux, etc. Mais ils vont attaquer en diffamation. S'ils attaquent en diffamation, et je gagne en première instance, je gagne en appel, ils se foutent en cassation, donc je suis à nouveau dans un circuit comme ça, quoi.
Donc là on franchit la douane, là, on passe au Luxembourg ici.
Ouais.
Traverser le rond-point, deuxième sortie.
C'est un pays que j'aime pas. Hein. Ces gens-là savent très bien qu'ils fonctionnent, qu'ils ont fonctionné sur l'argent du crime, puisque toutes les mafias du monde et ont des comptes ouverts ici. Et c'est ça qui enrichit les gens, quoi. Tout le monde à Luxembourg a une femme, une sœur, un frère qui travaille dans une banque.
Poumon de la finance parallèle. Voilà où sont nos deux héros, Denis Robert et François Ruffin. On va voir Jean Maillard. Jean Maillard aussi a un point de vue sur le travail de Denis Robert. Jean Maillard est magistrat.
Jean Maillard, vous êtes magistrat, vous avez été juge d'instruction. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la criminalité, notamment la criminalité financière, avec Un monde sans loi. Vous avez, au moment de la publication de Révélations, vous avez été l'un des signataires avec Ligier Vajoli, avec Renaud Van Ruynbeck pour la France, avec Bernard Bertossa, qui était procureur à Genève, avec un procureur également à Bruxelles. Vous avez été l'un des signataires d'une tribune, pour ainsi dire, de soutien à Denis Robert, d'une tribune qui disait qu'il y avait un certain nombre de vérités dans Révélation.
Oui, l'enquête de Denis Robert, qui était argumentée, qui s'appuyait sur des témoignages d'insiders, comme on dit, c'est-à-dire de personnes qui avaient non seulement travaillé au sein de Clearstream, mais qui avaient eu des responsabilités dans cet établissement financier de premier plan, et qui dénonçaient elles-mêmes des mécanismes frauduleux qui auraient été mis en place par Clearstream, donnaient de la crédibilité, une crédibilité très importante à l'enquête de Denis Robert, qui n'a pas été entendue. Donc, le soutien qui avait été apporté par les magistrats à Denis Robert consistait à dire qu'il serait important de pouvoir poursuivre le travail qu'il avait fait en tant qu'investigateur, ce travail devrait être poursuivi par des investigations publiques avec les moyens dont pouvaient disposer les puissances publiques, ce qui n'a pas été fait.
Vous demandiez en tout cas, un certain nombre de magistrats français, belges et suisses demandaient à ce qu'il y ait une enquête de lancer sur Clearstream, sur les chambres de compensation. À la place, les enquêtes qu'il va y avoir, les procès qu'il va y avoir, vont être à l'encontre du journaliste qui pose ces questions.
Oui, effectivement, c'est l'histoire, comme dans la chanson de Béart, du premier qui dit la vérité, qui doit être exécuté. Très vite, la justice luxembourgeoise a ouvert une information judiciaire, mais très vite, il est apparu aussi, je dirais pour les professionnels qui connaissent un petit peu la musique, que en fait, le but des autorités judiciaires luxembourgeoises était en réalité de sauver le soldat Clearstream, en quelque sorte, parce que Clearstream est un élément essentiel de la richesse financière du Luxembourg et qu'il ne pouvait être question de déstabiliser l'industrie financière au Luxembourg.
Moi, je me demande si, à la limite, Denis Robert n'est pas plus poursuivi, moins pour ses dénonciations qu'à la limite pour les solutions quasiment qu'il propose. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de très positif. Alors qu'on croyait qu'on avait une mondialisation financière qui était incontrôlable, où on avait des flux financiers qui étaient sans trace, où c'était complètement dématérialisé, donc on pensait que c'était impossible de contrôler quoi que ce soit. Là, il vient dire, regardez, entre Clearstream et Euroclear, entre deux chambres de compensation, on a l'essentiel des mouvements financiers internationaux de la planète. Ça se chiffre en dizaines, en centaines de milliards quotidiens. Donc là, si vous voulez agir, il y a ce point-là sur lequel vous pouvez agir. Et finalement, c'est comme si il fallait surtout pas qu'on discute de ça.
Je pense qu'on a voulu faire payer à Denis Robert sa ténacité et surtout peut-être que ça serve de leçon de façon à ce qu'il n'y ait jamais d'autres Denis Robert.
Vous êtes arrivé.
Donc Clearstream, ça doit être en face là.
Je me paume un peu, moi, c'était au numéro 42.
La Clearstream, c'est là.
Mais il y avait avant, il y avait au centre-ville, ils avaient un des plus beaux immeubles de Luxembourg. Avec, en grosses lettres, Clearstream, on le voyait la nuit, quoi. Puis évidemment, après mes bouquins, les lettres ont rapetissé, puis à un moment donné, l'enseigne a disparu et l'immeuble a été vendu. Et ils ont repris des immeubles de verre.
C'est à peu près la Défense, mais qui serait en dehors de la ville, quoi. C'est-à-dire des bâtiments de verre, un alignement de bâtiments de verre.
Des petites œuvres d'art, un peu comme ça. On dirait du Nikita Saint-Phal, tu sais, ce genre de... Mais c'est quand même assez déshumanisé, comme quoi.
Ah, c'est la zone industrielle, sauf que c'est une zone bancaire, quoi.
Ouais. Attends, je peux tourner, là? Putain, non, j'ai jamais le droit de tourner. Pour ces financiers qui vivent dans une espèce de vase clos coupé du monde, et c'est là qu'est l'argent de toutes les sièges des... Derrière ces façades, c'est une espèce de coffre-fort planétaire. Mais comme l'argent est aujourd'hui électronique, tout est dans des disques durs d'ordinateur. Et puis tu croises des types comme ça, habillés en costard, enfin tu les vois qui...
Mais avec tout ce fric-là, ils n'ont pas réussi à se construire un beau monde, parce que ça pourrait être un beau monde à part, mais là, c'est pas...
Ouais, c'est tout, quoi.
Mais ça fait banlieue, quoi.
Ouais, ça fait banlieue. Là, il y a une galerie d'art, tu vois, je veux dire, moi je serais artiste, je chierais la honte d'aller exposer là-dedans, quoi. Mais les Luxembourgeois ont plutôt des goûts de chiottes en matière d'art, mais ils ont plein de pognon, donc ils investissent dans des trucs. Je crois bien que c'est ça, Clearstream, non? Je suis pas sûr.
Il y a un immeuble de 5-6 étages, là où on est à l'arrière, on aperçoit les gens dans une cafétéria. C'est la cafétéria du Deutsche Börse Group, c'est la cafétéria de Clearstream. T'es déjà allé manger là, à la cafète, c'est bon?
Non, je suis jamais allé manger à la cafète.
Il y a 15 ans, Clearstream, tu connaissais?
Ah non, j'avais aucune idée de tout ça. Je suis contacté par un jeune luxembourgeois qui s'appelle Marco Mart, qui était le fils d'un député, et qui va me présenter un type qui s'appelle Bacchus. Et au contact de Bacchus, je me rends compte que, contrairement à tout ce que j'avais cru, et à tout ce qu'on m'avait fait croire, et à tout ce que me racontaient les juges, il y avait une traçabilité de l'argent. Il y avait donc une mémoire de l'argent. Et ça, c'était une idée complètement nouvelle. Et donc, je découvre ces espèces de boîtes qui s'appellent les chambres de compensation. J'entends parler de clearing, je ne savais pas ce que c'était, moi. Et Van Orimbeek et Eva Joly, ou tous ces juges qui, aujourd'hui, peuvent parler de ça, ils ne savaient pas ce que c'était non plus, quoi. D'abord, c'était un travail de comprendre, et de comprendre qu'il y avait une mémoire de l'argent, qu'il y avait une centralisation de l'information, que l'argent était complètement dématérialisé, mais qu'à un moment donné, la dématérialisation ne voulait pas dire l'absence de traces.
Qu'est-ce qui se passe derrière ces parois de verre, là, où on voit des gens qui travaillent, des gens qui s'amusent à la cafétéria? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qu'une chambre de compensation?
C'est un organisme financier qui fait le lien entre toutes les banques et tous les organismes financiers de la planète. Je comprends que c'est un nœud essentiel de cette finance internationale, et surtout je comprends un truc, c'est qu'elle n'est pas contrôlée. Par exemple, quand il y a eu la crise en Argentine, c'est Clearstream qui a communiqué au nom des banques de la planète. S'il y avait eu des outils indépendants de contrôle de Clearstream, on aurait pu prévenir la crise argentine. C'est dingue, mais c'est vrai.
Si jamais on voulait contrôler la finance internationale, là, il y a un point sur lequel il faudrait faire peser toutes les instances de contrôle.
Voilà. Les paradis fiscaux sont des leurs. Ça ne sert à rien d'aller à Jersey, d'aller à Guernsey, d'aller à Andorre, d'aller à Monaco, même d'aller à Caïman pour retrouver des traces d'argent. Toi, juge ou toi, journaliste, tu vas aller à Caïman, tu vas trouver des cacahuètes, tu ne trouveras jamais rien. Par contre, où est-ce que s'inscrit la propriété de cet argent? Eh ben, c'est dans les sociétés qui vendent. Et cette société, c'est Clearstream ou Euroclear.
C'est minable comme musique, c'est vrai. Mais c'est tout ce qu'on a trouvé pour illustrer les paradis fiscaux. Ça, c'est un paradis fiscal, enfin, d'après. Yann Chouquet et Coyen Guyenne. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire, vous voyez, cocotier, lagon, un endroit où on s'emmerde profondément. Ce qui est frappant, peut-être, avec ces riches et ces enrichis qui souffrent de cette terrible pathologie du profit, c'est leur profond manque d'imagination, manque de culture, manque d'ambition. À part l'argent, gagner de l'argent, entasser de l'argent, mais c'est tout, c'est tout. Il n'y a rien au bout et cette galerie d'art là que nos deux oeufs trouvent à Luxembourg, je suis sûr que c'est des toiles pitoyables, mais ils s'en foutent parce que, enfin ceux qui achètent ces choses-là, parce que c'est uniquement pour spéculer et c'est encore pour faire du pognon. Tout ça, ce serait simplement amusant ou désolant tout au plus, sauf qu'évidemment, ça n'est pas sans lien avec la marche du monde, les inégalités et les souffrances de certains. Pour en savoir plus, Denis Robert a travaillé avec Ernest Bocquez, qui était l'ancien numéro 3 de Clearstream et qui nous parle.
Ernest Bocquez, là où on vient de sortir du tribunal, ça a duré à peine un petit quart d'heure. Vous, vous avez été numéro 3 de Clearstream, donc vous avez été un personnage important au Luxembourg, on peut dire.
Oui.
Si jamais il y a tant de procès qui sont mis en place par la justice luxembourgeoise, par Clearstream, par des banques, y compris des banques russes, c'est parce qu'on là, on a touché à un point névralgique de la finance.
Ça, certainement. C'est certainement le cas. Il faut dire que les tribunaux et la haute politique sont sous pression des milieux financiers, les plus hauts milieux financiers et politiques, je dirais, du monde entier, pour nous abattre, pour que finalement on n'arrive pas à discuter sur le fond de l'affaire. Mais je peux vous assurer que sur le fond de l'affaire...
C'est quoi le fond de l'affaire pour vous? C'est qu'il y ait des comptes non publiés chez Clearstream, que Clearstream puisse servir de plaque tournante de la finance occulte?
Oui, on peut blanchir de l'argent sur un compte publié aussi bien que sur un compte non publié.
Et vous, vous dites que Clearstream est l'une des plaques tournantes qui permet de blanchir cet argent?
Oui, oui, c'est ce que j'ai en somme toujours dit. Bien qu'ils ne soient pas les blanchisseurs, hein, les blanchisseurs restent les membres des systèmes qui utilisent le système pour blanchir.
C'est-à-dire qu'eux, ils ont la machine. Ils ont la machine à blanchir, mais ce n'est pas eux qui blanchissent.
C'est ça.
C'est comme un pressing et chacun vient laver soi-même son argent.
C'est exact. C'est exact. Mon idée n'était pas de désigner Clearstream et les autres chambres de compensation transfrontalière comme des blanchisseurs, mais pour des gérants de machines à laver.
Et donc vous dites, finalement, s'il y avait un endroit où on pouvait commencer à contrôler la finance internationale, ça serait par ces chambres de compensation, d'abord par Clearstream, par exemple.
Oui, oui, oui. Donc, ils insistent pour nous ridiculiser, Denis Robert et moi-même, pour nous pousser dans un rôle de farfelu et de je ne sais pas quoi encore.
Ça vaut vraiment le coup de se donner la peine de comprendre comment tout cela fonctionne. C'est ce que fait Denis Robert depuis déjà longtemps. Ça lui coûte ce que vous entendez. Il a réalisé plusieurs films, dont Les Dissimulateurs, que je vous conseille, et L'Affaire Clearstream, racontée à des ouvriers de Diwu. Ça étonnera pas trop les auditeurs de la basse justice qui connaissent cette histoire de Diwu que nous avons racontée. Donc, L'Affaire Clearstream, racontée aux ouvriers de Diwu. C'est un film de Pascal Laurent, dans lequel on voit Régis Impel, que voici.
Ah oui, moi j'ai été vice-président dans la société, hein. J'étais responsable de l'informatique et de toute la production, quoi. J'avais quand même plus que la moitié des gens qui travaillaient à ce moment-là à Cédal étaient sous mes ordres. Plus que la moitié.
Lui, physiquement, il prenait, il manipulait les programmes informatiques et il effaçait des transactions, mais des transactions sur des montants. Et on comptait en dizaines, voire centaines de millions de dollars.
Parce que dans le temps, ce que mon papa, peut-être que je me gourre, mais c'est dans le temps où moi j'étais là, c'était entre 50 et 60 milliards de dollars par jour que ça tournait.
50 à 60 milliards de dollars par jour.
Par jour que ça tournait.
C'est-à-dire que c'est une transaction qui avait existé, mais dont il fallait effacer les traces.
Les traces, oui. avec deux instructions dans un programme, c'est bête. Read, write, fini. Hein. Pour nous, c'était de la routine. Je dis toujours pour nous, en informatique, c'était de la routine. Hein.
Mais ça vous paraissait louche, alors ?
Je m'étonnais, quoi.
Et pourquoi on vous demandait d'effacer ces transactions, alors ?
Ouais, pour pas retrouver de traces, tout ça vient.
Parce que ça peut venir de où ?
Là ! Ça peut provenir de partout, quoi.
T'es un trafiquant de drogue, un trafiquant d'armes, t'es un fraudeur du fisc, t'as pas envie de... Voilà, c'est le moyen le plus absolu de ne jamais retrouver la trace de l'argent. On est dans le point aveugle de la finance internationale. Après, même le meilleur enquêteur de la Terre, le meilleur informaticien, il n'arrivera jamais à retrouver la trace de l'argent. T'as l'argent qui arrive et tu sais pas d'où elle vient. Donc c'est en prévision de futures enquêtes, ou c'est infusible dans la chaîne des transferts d'argent. À ce moment-là, il y a un endroit où il y a une rupture et on ne retrouvera jamais la trace.
Pour moi, il y a une volonté très précise des institutions de ne pas contrôler Clearstream. Il n'y a pas de contrôle. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait des contrôles.
Les institutions, c'est les institutions financières internationales et les institutions luxembourgeoises.
Bon, ensuite, le gouvernement est plus haut. Pour contrôler une firme pareille, il faut quand même qu'on contrôle ça. Et on ne contrôle pas.
Finalement, c'est ce nœud qu'on devrait le plus observer au niveau de la finance internationale. C'est lui.
Facile de contrôler, ce serait facile. Hein. Ce serait très facile de contrôler. Hein.
C'est lui qu'on devrait le plus contrôler, le plus observer. Ouais. Et c'est celui qu'on contrôle et qu'on observe le moins.
Ouais. Et c'est facile de mettre des trucs de contrôle. C'est très facile de le faire.
Et donc ça veut dire que, par exemple, vous connaissez le mouvement ATTAC ou pas ?
Oui.
Mais quand ils disent qu'on peut réguler la finance internationale, qu'on pourrait mettre une taxation sur les capitaux, finalement, si on observait ce qui se passe à Clearstream, vu que c'est par là que tout passe, on pourrait le faire par là ?
Très facilement. Très, très facilement, encore une fois.
C'est d'autant plus évident qu'il ne faut surtout pas qu'on en commence à en avoir l'idée, alors.
Voilà. Parce que tout est informatisé. Il suffit de mettre quelques petits... programme de contrôle là-dedans, qui serait contrôlé par des institutions indépendantes, gouvernementales ou autres, je m'en fous, mais c'est très facile à faire. Et c'est pas voulu. Je peux me l'expliquer comme ça, c'est pas voulu de le faire. Mais le gros problème pour les gouvernements, pour tout le monde, c'est ces sommes énormes. Le marché de la drogue, le marché des armes. Comment faire rentrer cet argent-là à nouveau dans le circuit normal des affaires ? C'est ça le gros défi.
Et donc, comment on fait pour faire rentrer cet argent dans les circuits financiers normaux ? L'argent de la drogue, l'argent des armes ?
Avec Clearstream, mais on utilisait ces chemins-là, il y a moyen de faire.
Ouais. Et quand vous étiez à l'intérieur de Clearstream, vous étiez la seule personne à penser que ça servait à faire du blanchiment, que ça pouvait servir à faire du blanchiment, ou bien c'était un avis qui était partagé par quelques-uns de vos collègues ?
Bah, disons, tout le monde savait. Moi, j'étais l'exécutant, mais... Il y avait en haut, disons, en haut de la production, il y avait des gens qui savaient mieux que moi. Hein.
Et les ordres, ils venaient directement de la direction ?
C'est directement d'en haut. Hein. C'est, pour moi, Clearstream est le meilleur moyen de blanchir. Quoi.
Et quand vous dites ça aux banquiers, quand vous dites ça aux magistrats luxembourgeois, quand vous dites ça, qu'est-ce qu'on vous répond ?
J'ai dit aussi toujours, on est un très petit pays ici au Luxembourg, et ça j'avais dit aussi, j'ai dit, à un moment donné, ici, c'est fini. Luxembourg, c'est tabou. Hein. Ça, c'est...
Parce qu'il y a trop d'intérêts qui sont liés à la banque. Oui. Le pays vit sur la banque. Donc finalement, si on met en cause Clearstream, c'est comme si on se tirait une balle dans le pied.
Dans les deux pieds. Dans les deux pieds. Ça ne marcherait plus. Hein, ça.
Merci à tous, merci à Régis Impel qu'on vient d'entendre, merci à Jean de Maillard, Dominique Pion, Rémi Malingret, Ernest Blaqueuse, Pascal Laurent et Denis Robert. Et on n'a pas eu le temps d'entendre Claude Angéli, le rédacteur en chef du Canard Enchaîné, qui, vous en doutez bien, apporte son soutien lui aussi à Denis Robert. Le soutien de Denis Robert, c'est le soutien.blogspot.com. C'est très facile à trouver. C'était un reportage de François Ruffin, à voir de Denis Robert, Les Dissimulateurs, et surtout, et aussi, disons, l'affaire Clearstream, raconter un ouvrier de chez Diwou. C'est des documentaires qui sont aux éditions BAC Vidéo, BAC Vidéo. Puis d'autre part, nous vous signalons que le documentaire
King of the World de Valérie Mitaud, Anna Pitoun et Rémi Rosier est sur tous les écrans. On l'a pas encore vu. Allez le voir. Dites-nous, on en reparlera. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ou bien sur là-bas.org, là-bas.org. Où vous pouvez également réécouter et réécouter et réécouter encore cette émission. La technique aujourd'hui, Pierre-Yves de Roulin et Benjamin de la Gâtinais, c'est Yann Chouquet et Coyenne Guyenne qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry et Christophe Imbert, se tient, vous le savez, près du répondeur dans l'attente de vos messages au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.